Bonjour. Brigitte et moi sommes très heureux d'être parmi vous. C'est un retour à la maison, dans la famille. Le Seigneur, avant de partir, il a dit à Jean, occupe-toi de ma mère. Mais il a aussi dit, qui sont ma mère, mes frères, ceux qui font la volonté de mon Père. Donc la famille biologique est importante. Mais elle n'est pas aussi importante que la famille spirituelle. Voilà. Et vous êtes notre famille. Merci. Il y en a au moins un. J'aimerais que nous lisions un passage dans le livre des Actes, chapitre 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ça fait pas longtemps que le Seigneur m'a conduit à véritablement réfléchir sur ce texte. Parce que, en fait, jusque-là, j'évitais d'y réfléchir. Le contexte, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est le contexte de l'Église naissante. C'est le contexte de exaltant de ces moments où Jésus est parti et le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est présent, le Saint-Esprit est actif. Les gens sont prêts, réceptifs, ils ont été préparés par le Seigneur et ils entendent le Saint-Esprit, ils voient les œuvres du Saint-Esprit, il y a des guérisons, n'est-ce pas? C'est véritablement le début de l'Église de Christ. Le début aussi de ce qu'on appelle l'Église locale. En fait, à l'époque, l'Église locale et l'Église de Christ c'était la même. Hein, c'est seulement après, lorsqu'il y a eu les missions, lorsque les apôtres sont partis et qu'ils ont implanté des églises dans d'autres contrées dans le monde, que la notion d'église locale s'est véritablement installée. Mais une église locale, c'est réellement l'église de Christ lorsqu'elle fonctionne de la bonne façon. Le terme assemblée, hein, que vous trouvez au verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée. C'est la première occurrence de l'Église. C'est le terme ecclésia qui signifie un groupe. En fait, c'est un nom commun, mais quand vous associez Dieu à la notion de groupe, eh bien vous avez l'Église de Dieu. C'est le groupe de Dieu. Vous êtes le groupe de Dieu. À l'époque, donc, la première église était donc aussi l'église universelle, et le groupe était composé des apôtres et de tous ceux que le Saint-Esprit ajoutait à l'église. C'était un groupe d'hommes et de femmes baptisés du Saint-Esprit, et ils se réunissaient la plupart du temps dans des maisons. Ça a duré assez longtemps. Je pense que le fonctionnement a été dans les maisons, ça a duré au moins 300 ans. Ça, peu à peu, ça s'est développé. Les locaux spéciaux se sont développés, mais le mode de fonctionnement, c'était l'église de maison pendant très longtemps. Et, n'est-ce pas, l'église locale, c'est juste en aparté, c'est l'endroit où il y a des gens qui sont réunis par le Saint-Esprit. Mais le simple fait d'être ensemble en tant que chrétien ne fait pas de cet endroit une église. Un groupe de chrétiens devient une église. Pas parce qu'ils ont une doctrine qui est juste, pas parce qu'ils ont développé des capacités à évangéliser, pas parce qu'ils ont développé une très grande sainteté, mais parce à cause de ce que le Saint-Esprit accomplit au milieu du groupe. Le Saint-Esprit était à l'œuvre, je disais au début, et il était à l'œuvre de différentes façons. Le Saint-Esprit a formé les témoins. Jésus a dit, n'est-ce pas, vous serez mes témoins. Et le terme grec derrière, c'est martus, les martyrs. Vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit forme des témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont prêts à donner leur vie concrètement pour le Seigneur. Donner leur vie physiquement ou se donner dans la vie pour le Seigneur. Le Saint-Esprit se manifeste par des dons dans l'Assemblée. Ça, vous le lisez dans Actes 2, versets 14 et 18. Vous pouvez faire vos devoirs demain. Les auditeurs non-croyants sont convaincus de péché et amené à la repentance. Actes 2, 38 et 39. Les croyants se reconnaissent, non parce qu'ils partagent la même doctrine, j'ai déjà dit, mais parce qu'ils partagent une volonté commune qui est de marcher dans la vérité et de glorifier Dieu. C'est l'obsession du croyant. C'est marcher dans la vérité et glorifier Dieu. On peut aussi préciser que durant cette période, le Saint-Esprit opérait beaucoup de guérisons, qu'il y avait beaucoup de conversions et de manifestations des dons, comme le parler en langue, les prophéties, et le don de discernement des esprits. On va lire un autre texte dans Josué 7. Le contexte de Josué 7, c'est le début de l'entrée dans le pays promis. Israël est arrivé, Josué vient de remporter une victoire mémorable à Jéricho. N'est-ce pas? Il a rencontré l'ange de l'Éternel et puis ils ont observé ce qui se passait, plus ou moins. Enfin, en tout cas, ils ne se sont pas battus et la ville est tombée. Extraordinaire, extraordinaire. Et donc, Josué s'apprête à attaquer la ville d'Aï. Il semblait que après la première victoire, gagner la ville d'Aï ne serait pas grand-chose. Ce n'était pas quelque chose d'insurmontable. Ce serait même qu'une formalité. Mais il se trouve que finalement, Israël a été défait, a perdu, battu, à plate couture. Et ça a causé la consternation de Josué, qui s'est mis à douter de son avenir et de celui de son peuple. Alors Dieu a parlé à Josué. Et au verset 10, nous lisons, « L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et dissimulées et les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis ? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Alors, Josué commence à systématiquement vérifier qui étaient ceux qui avaient causé le problème. Et au verset 19, on lit la suite. Josué dit à Achan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Achan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéard, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente, et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Achan, et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Achan, fils de Zérakh, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Achan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit, « Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Le nom Achan signifie « trouble ». Pourquoi nous as-tu troublés ? N'est-ce pas? Tous les péchés ne sont pas les mêmes. On a souvent l'habitude de dire ça, nous sommes tous pécheurs, on est tous pareils devant Dieu. Mais il semblerait que non. Le péché d'Acan était un péché très grave. Le péché d'Ananias et Saphira était un péché très grave. On pourrait aussi se dire que, bon, tout ça c'est de l'histoire ancienne. C'était le Dieu de l'époque. Dieu n'agit plus de la sorte aujourd'hui. On est nous-mêmes des pécheurs comme eux, pourquoi eux et pas nous? Enfin, est-ce que ça a du sens? Mais pour Dieu, il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Le péché d'Acan était particulièrement grave à un moment crucial pour Israël. C'était le combat contre les ennemis pour l'installation dans le pays. Dieu avait donné le pays, mais il ne le possédait pas encore. La possession devait se faire au travers du combat, à travers de ce que le terrain qu'ils allaient fouler, c'était le terrain qui leur serait donné, qu'ils posséderaient. Israël venait de sortir du désert dans lequel toute une génération avait péri. La manne avait cessé. Et ils allaient prendre possession du pays que Dieu leur avait donné. Une nouvelle vie les attendait. Ils allaient pouvoir faire des projets, construire des maisons. Ils allaient pouvoir s'installer. Mais à cause de la convoitise, à cause de l'appât du gain d'un seul homme, et parce qu'il pensait que personne n'en saurait rien, Achan s'est servi dans le trésor de guerre. Et l'a caché chez lui. Et son acte a déclenché la colère de Dieu, qui a décidé d'abandonner tout Israël. Pour un seul homme et son péché, c'est tout le peuple qui est sanctionné. De la même façon que le péché d'Acan allait mettre en péril la conquête de Canaan, le péché d'Ananias et Saphira allait mettre en péril l'Église primitive. La désobéissance d'Acan a un impact sur tout le peuple. Acan pensait être invisible lorsqu'il était occupé à voler Dieu, mais Dieu le voyait. Ananias pensait que sa fraude serait invisible, mais le Saint-Esprit l'a dénoncé. Nous pensons que nous sommes invisibles, mais nous ne le sommes pas. La question qui se pose, est-ce que ce qui est arrivé à Ananias peut nous arriver à nous aussi? Ananias et Saphira sont tous deux des croyants dans la toute nouvelle Église de Christ. N'est-ce pas? On serait tenté de dire non, mais ce n'étaient pas des vrais chrétiens. Excusez-moi. Si vous me dites ça, vous me dites quelque chose qui n'est pas marqué dans la parole. Ananias et Saphira faisaient partie de la toute nouvelle Église de Christ. Et ils étaient probablement destinés à être des leaders. Le prénom Ananias signifie, et j'avoue que j'étais stupéfait en réalisant ce que ça signifiait, Yahvé a gracieusement donné. dans un prénom, vous avez Dieu, vous avez la grâce et vous avez le don. En fait, vous avez le plan du salut dans ce nom. Yahvé a gracieusement donné. Et Saphira signifie belle, magnifique, superbe. Ananias et Saphira sont dans la dynamique de l'Église primitive. Et les croyants vivent comme si rien ne leur appartenait en propre. Vous le lisez au chapitre 4, verset 2. Et c'est dans ce cadre que Barnabas, ancien lévite, se propose lui aussi de vendre un champ qui lui appartient pour ensuite remettre l'argent aux disciples, afin qu'il le distribue à ceux qui en manquaient, de sorte qu'il n'y avait pas de pauvres dans la communauté. Acte 4, 34, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Cette façon de vivre et de partager entre frères et sœurs était la marque de l'unité et de l'amour manifesté à Dieu. Jésus lui-même l'exprime dans Matthieu 25 lorsqu'il dit « Ce que vous avez fait pour le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ce que vous n'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Mais c'était aussi un temps où les croyants étaient submergés par la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas ? À plusieurs reprises, le Saint-Esprit était venu pour les remplir et pour les soutenir dans la prédication de la parole, dans un contexte qui était celui de la persécution. Acte 4, 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Comme Barnabas, Ananias et Saphira ont voulu contribuer, mais pas de tout leur cœur. Ils ont voulu contribuer à l'Église, mais pas de tout leur cœur. Ils l'ont fait par imitation, peut-être comme Barnabas qui lui-même avait vendu un champ. Alors ils ont vendu un champ. Et ils ont retenu une partie de la somme. Tout en laissant croire aux apôtres qu'ils donnaient tout, le montant de ce qu'ils avaient obtenu pour ce champ. Mais le Saint-Esprit n'a pas laissé faire cela. Et le Saint-Esprit a révélé immédiatement à Pierre le problème. Et le problème, ce n'était pas le manque à gagner pour l'Église naissante. Le problème, ce n'était pas l'égoïsme d'Ananias et Saphira, ou l'avarice plutôt, d'Ananias et Saphira. Le problème, c'est que leur cœur était faux. À l'intérieur, ils étaient tordus. Il y avait une corruption à l'intérieur d'eux-mêmes. Le Seigneur Jésus est venu parce qu'il était l'incarnation de la vérité. Il est venu pour proclamer la vérité. Jésus est la vérité. C'est-à-dire que tout est vrai en lui, tout est vrai à propos de lui, tout ce qu'il fait est vrai. Il est la vérité. Dans Jean, vous lisez que, n'est-ce pas, la parole est venue pleine de grâce et de vérité. La parole, c'est Jésus. Jésus est aussi celui qui dit la vérité. tel qu'il l'entend de son Père. On lit dans Jean 8, 40, « Maintenant vous cherchez à me faire mourir, » il parle aux pharisiens, « moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur. Il est le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Les croyants en Christ sont tous des disciples de Christ. Je sais qu'il y a une mode aujourd'hui de dire on va faire des croyants des disciples. Mais si vous n'êtes pas disciple de Christ, vous n'appartenez pas à Christ. C'est de l'ordre de la stupidité, en réalité. Il n'y a que des disciples de Christ où il n'y a personne. Parce que les disciples de Christ sont appelés à continuer l'œuvre de Christ. Dans Jean 17, Jésus prie le Père pour que ses disciples poursuivent son œuvre sur la terre selon la volonté du Père. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé, je les ai aussi envoyés. Jésus attend de ses disciples qu'ils assurent la continuité de sa mission dans le monde et dans une dépendance absolue au Père, comme il l'était lui-même. Le Fils de lui-même ne peut rien faire. Est-ce que vous croyez que moi je peux faire quelque chose de moi-même si Jésus lui-même ne pouvait pas le faire par lui-même? N'est-ce pas? Plusieurs fois, Jésus le dit, il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce que le Père lui montre. Et le problème d'Ananias et le problème d'Achan, c'est qu'ils ont fait, non pas ce que le Père leur montrait, mais ce que Satan leur montrait. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, « Votre Père, c'est le diable, et vous agissez en fonction de ce qu'il vous montre. » Ils ont fait ce que Satan leur montrait parce qu'au lieu d'être remplis du Saint-Esprit, ils étaient remplis de Satan. On est toujours rempli de quelque chose. Soit du Saint-Esprit, soit d'un autre esprit. La tentation pour les croyants, c'est de rechercher la sécurité et la satisfaction au niveau humain, comme le fait le monde, plutôt que de s'attacher fermement à Dieu par la foi et de se garder du malin. Je ne te prie pas, Père, Jean 17, 15, de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour cela. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'esprit de vérité ne parle pas de lui-même. Il dit les choses qu'il a entendues. Quel est l'esprit qui nous habite? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que la petite voix à l'intérieur de nous nous dit et nous incite à faire? Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils sont morts à la vérité. Et ils se sont éveillés à la connaissance du bien et du mal. Seul Dieu possédait cette connaissance jusque-là. Mais il ne la pratiquait pas comme nous la pratiquons aujourd'hui. La connaissance du bien et du mal semble, a priori, être la voie de l'équilibre et de la raison, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est la manifestation d'un cœur tortueux et corrompu par le péché. La corruption se manifeste par la différence qu'il y a entre la vérité et ce que nous allons nommer vrai. La première manifestation de cette corruption, nous l'entendons dans la bouche d'Adam, dans Genèse 3, verset 9. Quand Dieu le cherche, il lui dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu. » Tout ce qu'Adam dit est vrai. Il a eu peur et il est nu. Mais ce n'était pas la vérité. La vérité, c'était qu'Adam avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? C'est une des caractéristiques de l'esprit religieux que de dire le vrai, tout en méprisant la vérité selon Dieu. Et Jésus a exemplifié ça à plusieurs reprises. Matthieu 23, 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est l'axe qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Ils font ce qu'ils font est bien, mais ils ne pratiquent pas la justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est ça la vérité selon Dieu. Quand on prétend faire quelque chose pour Dieu, alors qu'en réalité on cherche l'approbation des hommes, cela veut dire que notre cœur est corrompu. Certaines façons de lire et pratiquer la Bible peuvent nous conduire dans les mêmes travers. Les pharisiens connaissaient bien le texte biblique. Ce n'étaient pas des ignorants, ce n'étaient pas des gens qui méprisaient Dieu a priori. Matthieu 12, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens voyant cela lui dirent, voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez, si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. À l'époque de Moïse, ceux qui étaient en train de travailler et qui étaient surpris en train de travailler le jour du sabbat mouraient lapidés. Les pharisiens sont donc très à l'aise lorsqu'ils disent à Jésus que les disciples font quelque chose d'interdit le jour du sabbat. Ils ont dit ce qui est vrai. Mais ils n'ont pas dit la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, il faut la connaître. Et c'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, si vous saviez. Et pourtant, ils le savent. Et c'est ça qui nous parle aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous le savons. Et Jésus dit, si vous saviez vraiment ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Bien-aimé, c'est la voix de Dieu qui parle. C'est même pas seulement Jésus sur la terre qui parle. C'est la voix de Dieu qui parle. Si vous saviez. Et la vérité de Dieu, c'est que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il prend plus qu'au sacrifice. Les pharisiens le savaient pourquoi? Parce que c'était marqué dans les prophètes, c'était marqué dans les psaumes. David en parle au psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? C'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Témoigner qu'on a tout donné à Dieu, alors qu'en réalité, on a seulement donné en partie. C'est une question qui se pose à nous aujourd'hui aussi. N'est-ce pas? Souvent nous disons, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as donné vraiment? Ou alors faudrait que je pose la question, qu'est-ce que tu as gardé? Est-ce que je suis dans le secret de mon cœur, la même personne que je montre en société? Est-ce qu'à mon travail, je suis le même qu'à la maison? Est-ce qu'à la maison, je suis le même que celui que je montre dans l'assemblée locale? Est-ce que je suis vrai devant Dieu? Est-ce que je suis vrai devant les hommes? Ou est-ce que je suis un vrai acteur? Est-ce que pour être bien jugés par les hommes, nous faisons croire que nous avons tout donné à Dieu, alors qu'en réalité, nous n'avons donné qu'une partie? La meilleure façon de le savoir, ce que l'apôtre Paul dit, c'est de s'examiner soi-même et de juger si nous sommes vivants ou si nous sommes morts. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Et là, la phrase est terrible. À moins, peut-être, que vous ne soyez réprouvés. Non conformes. Rejetés. Aussi bien pour Achan que pour Ananias et Saphira, et je pourrais remonter jusqu'à Adam et Ève, la mort est le signe du jugement de Dieu dans nos vies. Je ne parle pas de la mort physique, bien sûr, mais l'assèchement spirituel, la disparition de ce que Dieu avait mis en nous. Dieu regarde au cœur. Et parfois, nous parlons, nous agissons, nous nous comportons comme si Dieu ne nous voyait pas. Dieu voit ce qui est visible, mais aussi ce qui est invisible aux yeux des hommes. Et Pierre pose deux questions à Ananias. Pourquoi et comment? Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Lorsqu'on pose une question pourquoi et lorsqu'on pose une question comment, on n'attend pas les mêmes réponses. N'est-ce pas le pourquoi, il faut donner une raison. Il y a une raison immédiate. Il aurait pu dire, mais ben, je l'ai fait parce que j'ai pensé que tout le monde faisait pareil. Je me suis aligné. Comment? Ça évoque un processus. Comment en es-tu arrivé là? Certaines personnes disent, je suis tombé dans l'adultère. On ne tombe pas dans l'adultère. N'est-ce pas? C'est quelque chose qui commence un jour. Il y a un processus qui se forme dans notre tête, une pensée, notre cœur qui nous envahit. Et ensuite, on passe à l'acte. Pierre pose la question à Ananias, comment se fait-il? Comment est-ce que c'est arrivé? Et je nous pose la même question. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Comment est-ce que c'est arrivé? Mais apparemment, les réponses n'étaient pas si importantes que ça. Puisque Ananias et Saphira sont morts avant même d'avoir pu répondre. Dans Genèse 3, Dieu avait demandé à Ève, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Puisque Adam a dit, « Mais ce n'est pas moi, c'est elle qui m'a donné du fruit. » Alors Dieu lui a dit, « Mais pourquoi as-tu fait cela ?» Et elle a répondu, c'est parce que le serpent m'a séduite. Elle avait la réponse. Il semblerait que pour l'Église primitive, Dieu soit allé un cran au-dessus. Il n'a pas attendu la réponse, parce qu'il la connaissait, bien évidemment. Il la connaissait aussi la première fois. Mais nous sommes dans une autre période. L'Esprit de Dieu... Cette fois, l'Esprit de Dieu, au travers de la bouche de Pierre, pose la question directement, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Et la réponse qu'on n'entendra jamais, mais qu'on peut, nous, décliner, c'est parce que dans le choix qui m'était donné, je n'ai pas résisté à la tentation, et parce que j'ai aimé les ténèbres plus que la lumière. Je ne vais pas développer l'attractivité des ténèbres. Mais les ténèbres sont très attractives. Ananias et Saphira voulaient gagner sur tous les tableaux. Apparaître comme généreux et apparaître comme spirituel. Devant les hommes, ils voulaient qu'on les considère, mais ils voulaient aussi garder pour eux. C'est-à-dire non pas vivre par la foi, mais vivre par leur compte en banque. Alors que toute l'Église étaient en train de donner et de se donner les uns aux autres, eux voulaient garder une sécurité. Ils voulaient être différents, tout en faisant croire qu'ils étaient pareils. Comment se fait-il que tu aies prémédité un tel projet? Ce sont des actions réfléchies. Le péché qui est grave, c'est celui que nous réfléchissons, que nous faisons, que nous élaborons de façon stratégique, que nous dormons dessus, nous raisonnons, nous nous accordons avec notre épouse, avec notre époux, avec un complice. Et nous négligeons l'avertissement du Saint-Esprit qui en permanence nous avertit de faire un choix différent, de faire un choix différent, de ne pas aller, de ne pas continuer dans cette direction. Satan a-t-il rempli ton cœur? On est tous remplis de quelque chose. Et nous sommes responsables de ce qui nous remplit. Même si nous avons subi des tentations. Nous avons affaire à un couple d'enfants de Dieu qui se sont laissés séduire jusqu'à être remplis par Satan. Pour nous, croyants, baptisés du Saint-Esprit, nous avons été délivrés de la captivité et du péché. Et nous choisissons tous les jours si nous voulons être remplis du Saint-Esprit ou si nous voulons laisser la place à l'Esprit du monde. Dans 1 Jean 5, 18, vous lisez, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il y a des gens qui n'aiment pas trop que l'on parle du Saint-Esprit. Mais Pierre dit expressément que Ananias a menti, pas à Jésus, pas à Dieu, il a menti au Saint-Esprit. C'est-à-dire à celui qui est l'Esprit de vérité qui a été envoyé pour enseigner les croyants. Ananias et Saphira avaient menti à l'Église. Mais dans la pensée divine, lorsqu'on ment dans l'Église, eh bien, on ment à Dieu, on ment à Jésus, on ment au Saint-Esprit. Tout ce qui est fait contre l'Église de Christ est fait contre l'Esprit de Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Lorsque Jésus a descendu Saul de son cheval, il lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Mais Saul ne persécutait pas Jésus, il persécutait l'Église. C'est pareil. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Derrière cette phrase, il y a un principe. Et il y a un jugement. Le principe, ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, mais l'intention pourquoi on le fait qui compte. Vu de l'extérieur, l'action d'Ananias et Saphira était louable. Ils ont versé une somme, peut-être importante même, et pour le bien commun. Et on aurait pu dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on va leur chercher des poux dans la tête? Ils ont quand même donné quelque chose, n'est-ce pas? Peut-être que moi j'aurais dit ça. Mais le Saint-Esprit n'aurait pas été d'accord avec moi. Ils ont versé une somme. Mais cette somme n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Parce que leur motivation était mauvaise. Nous pouvons accomplir des actes de grande générosité. Nous pouvons même montrer de la gentillesse aux autres. Nous investir dans l'Église. Mais si nos motifs ne sont pas purs, c'est un péché. Et un péché qui est grave. Le jugement, immédiatement après leur déclaration, n'est-ce pas? Oui, c'est la somme que nous avons reçue pour ce champ. Eh bien, Ananias est mort. Il a expiré. C'est-à-dire que l'esprit qui donne, enfin, bon, le terme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bref, il a expiré et il est mort. Il est mort et je ne sais pas, moi, je ne peux pas vous dire s'il était sauvé ou pas. Et la Bible ne le dit pas. La Bible ne le dit pas. Et Saphira est morte 3 heures plus tard, dans les mêmes conditions. Et la Bible ne dit pas si elle est sauvée ou pas. Dans Jean 3, 19, après ce fameux verset, n'est-ce pas, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Après ce verset, il est dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, la lumière c'est Christ. Christ qui a allumé Ananias et Saphira. La lumière étant venue en Ananias et Saphira. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ce jugement a eu lieu au début de l'Église. Achan a été jugé au début de l'entrée dans le pays promis. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut encore juger son peuple de cette façon-là? Aux Pays-Bas, durant la Réforme, il y avait un chrétien qui s'est fait arrêter pour hérésie. Et donc, on le préparait pour le bûcher. Et souvent, à cette époque-là, on faisait des fêtes. C'est-à-dire qu'on organisait une partie où alors, c'était la famille de celui qui était condamné à brûler qui devait payer. Hein. Mais on organisait une fête et tout le village venait, les amis venaient, le futur supplicié était là aussi, et puis, voilà, c'était fait pour terroriser, en fait. Mais donc, les policiers étaient là, le juge était là, le maire était là, tout le monde était là, et l'homme était en train d'être embrassé par ses amis, et l'un d'entre eux lui a dit « À bientôt à Jérusalem ». Et le maire du village qui était là, qui a entendu, il s'est retourné. Il lui dit, toi, tu vas aller en enfer. Alors le futur supplicié s'est tourné vers lui et lui a dit, Monsieur le maire, si tu ne te repens pas, dans 3 jours tu seras mort. Il a été brûlé et a juste après, le maire a commencé à perdre la raison, a tourné dans le village pendant 3 jours. Et le troisième jour, il était mort. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Vous savez, je crois que dans nos esprits cartésiens, européens, nous avons du mal à saisir parfois ce que la pensée grecque et sémite avait saisi beaucoup mieux que nous, c'est-à-dire la possibilité de concevoir que Dieu soit effectivement amour pleinement, mais qu'il y ait aussi un juge pleinement. Dieu n'exerce pas souvent un jugement immédiat, mais il le fait parfois. Et on voit dans ce texte que la crainte joue un grand rôle. Mais là, ce n'est pas la crainte de Dieu dans le sens devant la grandeur de Dieu, mais la crainte devant la puissance et le jugement. Dans l'Église évangélique, ça fait bien longtemps qu'on ne prêche plus l'enfer. Parce que ce n'est pas bien vu, en fait. Mais bien aimé, si nous ne vivons pas par l'esprit de vérité, nous irons en enfer. Assurément. Assurément. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le péché est grave. Et les conséquences du péché sont graves. Je sais qu'il y a des textes qui disent que on n'est pas nécessairement malade parce que nos parents ont péché. Mais on peut aussi être malade parce que nous avons péché. On peut être dépressif parce qu'on a péché. Le péché a des conséquences sur la santé. Sur la durée de vie, peut-être. 1 Jean 5, 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Personne n'aurait pu prier pour Ananias et Saphira. Personne. Personne. Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous sommes dans les temps de la grâce, c'est vrai. Et c'est difficile parfois de comprendre. Comme je le disais avant, un Dieu d'amour et un Dieu qui juge. Difficile de comprendre Dieu qui est notre Père et Dieu qui est notre juge. Nous savons que Dieu est miséricordieux. Mais la miséricorde, bien-aimé, c'est pour les ignorants. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque Jésus dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il appelle la miséricorde de Dieu sur ces personnes. Et l'apôtre Paul a lui-même été le bénéficiaire de cette miséricorde lorsqu'il dit, Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. La miséricorde, c'est pour les ignorants. Mais le jugement, c'est pour ceux qui savent. Et ceux qui savent, ils portent un nom. Ils s'appellent tous Ananias. Dieu a gracieusement donné Nous qui savons, nous nous appelons tous Ananias. Et Ananias représente ceux qui savent et qui pêchent malgré ce qu'ils savent. Et parce que pour eux, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Hébreux 10, 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. En général, on essaye de faire des conclusions heureuses, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas faire une conclusion heureuse. C'est pourquoi je nous invite à nous approcher du trône de la grâce, de remercier Dieu de ce que nous sommes encore en vie et que nous pouvons changer, nous repentir, changer de route, reprendre de là où nous avons quitté la route. Peut-être que vous êtes le seul à le savoir. Peut-être que vous avez fait quelque chose d'invisible aux yeux de l'Église. Peut-être que vous êtes dans une situation qui est intolérable pour Dieu et que personne n'a remarqué. Mais Dieu le sait. Dieu le sait. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que nous puissions juste nous incliner dans la prière, d'examiner nos cœurs, et de demander au Seigneur de nous aider. Amen. Prions.